Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette, chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Bonjour à tous, tout au long de cette demi-heure, nous allons nous déporter du côté d'Avignon, non pas pour parler du festival d'Avignon, mais pour rester le long de la voie ferrée de la gare d'Avignon et d'aller du côté du Tri-Postal. Le Tri-Postal, eh bien, c'est un centre culturel, urbain, habité. C'est un lieu habité depuis maintenant 2000-2001 et qui connaît depuis 2 ans maintenant eh bien, de sérieuses transformation en interne dans sa manière de vivre d'une certaine manière, et nous allons en parler avec ceux qui habitent aussi, c'est-à-dire Hélène Bucher, Agathe Chiron et Éric Kérimel. Alors Hélène Bucher, bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène Bucher, vous êtes architecte pour notre atelier commun. Agathe Chiron, bonjour.
Bonjour.
Agathe, architecte également, cette fois-ci pour le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines. Et puis Éric Kérimel, bonjour Éric.
Bonjour.
Éric, et vous êtes directeur de HAS, Habitat Alternatif Social. Alors on va essayer de comprendre d'abord un petit peu notre atelier commun, pôle d'exploration des ressources urbaines, Habitat Alternatif Social. Qu'est-ce que tout cela recouvre? Peut-être on pourrait commencer par HAS, Habitat Alternatif Social.
Oui, HAS est une association qui existe depuis 30 ans. Comme son nom l'indique, on fait dans l'habitat. On fait dans l'alternative parce qu'on pense qu'il faut penser l'habitat, il faut le réformer, il faut dénormer l'habitat. Et puis social parce que notre utopie, c'est de loger les plus pauvres. Voilà. Donc on a différents services et entre autres, on travaille avec l'association CASA qu'on a intégrée, collectif d'action des sans-abri d'Avignon, qui logeait gracieusement sur un terre-plein devant un bâtiment des RFF, qui est celui dont on parle, qui s'appelle le Tri-Postal.
Voilà, donc cette association CASA HAS y est implantée, et là, depuis 2001 maintenant.
C'est ça, depuis 2001, on occupait des préfabriqués dans la cour. Ce bâtiment est inaffecté, il appartient à Réseau Ferré de France, donc on a disons, un peu ouvert les portes, sans trop demander d'autorisation au début. Non pas parce qu'on est des délinquants, mais parce que il y a des actes délinquants qui consistent à laisser les gens dehors. Donc on a réagi en disant c'est mieux qu'ils soient à l'intérieur pour avoir un lieu sécur. Et puis, d'histoire en histoire, on a rencontré le NAC et le Pérou, association absolument remarquable, qui ne sont pas du même pays que nous, puisqu'ils sont du Pérou. ils sont au nord d'Avignon, donc pour nous c'était un peu compliqué. On avait peur qu'ils nous amènent le froid. Et puis non, ils nous ont amené beaucoup de chaleur, beaucoup d'intelligence, beaucoup de choses alternatives, ce qu'on adore à HAS. C'est-à-dire ils ont compris que l'utopie, c'était simplement ce qui n'avait jamais été encore fait.
C'est-à-dire?
On est des utopiques, nous. Hein. C'est-à-dire qu'à HAS, ce qui est possible ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est impossible. Et donc, du coup, on essaye de rentrer dans des territoires de pensée qui sont un petit peu différents. Et notamment le fait que les gens très pauvres qu'on croise dans nos villes, quels qu'ils soient, c'est pas des surnuméraires, c'est un gâchis pour la République. Beaucoup de ces gens-là sont bourrés d'intelligence, bourrés de capacités. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est même pas par vocation humanitaire, c'est parce qu'on n'aime pas le gaspillage.
Agathe Chiron, je disais architecte, Pérou, pôle d'exploration des ressources urbaines. Qu'est-ce que vous explorez au Tri-Postal?
Alors, ce qu'on explore au Tri-Postal, notamment, en fait, c'est à chaque fois la question de comment dans la ville on fait l'hospitalité. Que ce soit donc à Avignon ou au nord d'Avignon, comme le disait Eric, parce qu'on travaille actuellement plus à Paris et en Essonne, donc région parisienne, et puis jusqu'à Calais, sur la question des jungles et des migrants. À chaque fois, c'est se tourner vers des situations que dans laquelle la ville en fait a exclu. Donc que ce soit, on va dire, donc des Roms, des sans-abri, des vieux, tout type d'exclusion dans la ville. Et nous, on a à cœur en fait de transformer ces situations-là, de les transformer, de les positiver, et surtout de se raconter en fait, de créer des récits pour tourner en fait cette situation qui d'habitude est toujours présentée comme une situation abominable, comme au contraire quelque chose qui est en train de se créer, quelque chose avec laquelle il faut faire. Et donc pour nous, voilà, le tripostal et l'appel d'HAS, c'était vraiment d'essayer de créer, de faire la ville dans ce lieu avec ceux qui en sont exclus et qui pour autant la veulent le plus. C'est comme ça qu'on est arrivé du coup au Tripostal à Avignon.
C'est-à-dire que vous avez habité au Tripostal.
Voilà, on a habité au Tripostal. C'est vrai qu'on avait rencontré Eric et puis Renaud Dramet, le directeur du pôle Vaucluse à Avignon, qui était déjà venu nous voir sur les bidonvilles, où on avait déjà investi et habité aussi sur le bidonville. Et on a appliqué cette même démarche en venant vivre sur place. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai vécu dans le CHRS, dans les Algeco, avec du coup les personnes accueillies. Et puis ensuite, on a monté un bureau et du coup, on a vraiment travaillé au quotidien sur place. Et c'est vraiment l'immersion qui permet de faire avec l'intelligence collective, en fait.
C'est-à-dire de faire avec ceux qui habitent sur place. Et l'idée, c'est quoi d'inventer le lieu,
voilà,
dans ce qu'il pourrait devenir.
Donc la première mission qui nous a été passée, ça a été une mission de faisabilité, donc d'étudier vraiment dans les grandes lignes qu'est-ce que pourrait devenir ce bâtiment. Parce que comme le disait Eric, on a un grand bâtiment qui fait 3000 m² qui est vide. Et au rez-de-chaussée, dans la cour, il y a une cour aussi de 3000 m², là il y a des Algeco et des gens qui vivent. Donc c'était étudier ces gens et puis comment ces gens et le rapport qu'ils ont à la ville, qu'est-ce qui peut se passer et comment on peut sublimer et continuer en fait de développer ce qui est déjà en place, parce que une des singularités notamment de Casa HAS, c'est d'avoir développé depuis longtemps des liens entre culturel et social, et on s'est grandement appuyé déjà sur cette base pour développer le projet.
Hélène Bûcher également, architecte cette fois-ci, notre atelier commun. Notre atelier commun, comment il vient en complément de ce que vient de dire Agathe du Pérou ?
Donc, notre atelier commun, c'est une association qui a été créée par Patrick Bouchain, le scénographe, en 1999, qui travaille sur des missions de recherche, de transmission et d'accompagnement de projets. Dans ce cadre-là, du coup, on est venu accompagner HAS et le Pérou. Parce qu'on était très intéressés déjà par ces projets-là. Et puis, c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur des reconversions de friches. On s'intéresse beaucoup aux délaissés dans la ville et comment les habitants peuvent se les réapproprier. C'est-à-dire comment on peut saisir ce droit de réutiliser ces espaces abandonnés, oubliés, délaissés. Et par un chantier vivant, par le faire ensemble, réussir à en faire des lieux uniques. C'est vrai que ce qui se passe au tri... je pense que c'est quelque chose qui pourrait se passer nulle part ailleurs, en fait, parce que c'est un lieu qui s'ouvre tout d'un coup, qui rentre en chantier et qui peut accueillir tous les possibles ou les impossibles, comme disait Eric. Mais c'est vraiment là qu'on est dans l'utopie et c'est vraiment là qu'on arrive à créer des choses uniques.
Et vous aussi, vous avez habité au Tripostal.
Voilà, tout à fait, dans le cadre de la permanence architecturale qui est vraiment une démarche assez propre à NAC et à Pérou également, qui est cette idée d'être sur place et d'accompagner le projet vraiment au plus près des usagers et des futurs usagers pour réussir à écrire et dessiner avec eux en collaboration le projet à venir.
Quand vous êtes arrivé au Tripostal, 2013, hein, je crois, à peu près, autour de 2013, il y avait déjà aussi au Tripostal d'autres associations qui venaient fréquenter le Tripostal. Il n'y avait pas que HAS, Eric Kerimel, je crois que Casa HAS avait déjà tissé comme ça des liens avec d'autres associations.
Oui, Casa avait tissé des liens avec les associations, notamment avec les associations culturelles. Ce qui a amené le Pérou, c'est que tout d'un coup, ça s'est ouvert, quoi. Tout d'un coup, il y a eu beaucoup plus d'associations, puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est 36 associations qui se sont fédérées autour de ce projet, avec des associations qui sont très, très variées. Bien sûr, il y a le culturel. Après, il faudrait définir ce qu'on entend par culturel. Il y a des associations qui font du social. Moi, j'ai tendance à dire des associations qui font du politique. C'est plus...
faut parfois reprendre des mots plus anciens et plus clairs.
Oui, voilà. Enfin, nous, on est un peu particulier parce que on est un peu gêné avec ce monde social ou de culturel. Ce dispositif au Tripostal, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on fait la ville. Alors après, on peut dire qu'il y a du culturel, on peut dire qu'il y a du social, mais il y a de l'urbain, il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a les gens de Colibri qui sont là, donc association écologiste, enfin voilà. Il y a des gens qui viennent, qui sont des bourgeois d'Avignon. Ce qui est intéressant, c'est le croisement. Voilà, ce lieu est déjà une réussite avant même qu'on ait totalement fini, puisque il n'y a pas très longtemps, on a fait une soirée de gala là-bas, et ma grande satisfaction, c'était de voir qu'à un moment donné, deux personnes dansaient, et puis il y en a un, c'est un centre domicile fixe d'Avignon, et qui était très content, il m'a dit « Oh, j'ai dansé avec une jolie dame blonde ». Bon, il n'a pas dit tout à fait comme ça, mais je ne peux pas dire ce qu'il a dit. Et en fait, je lui ai appris que c'était une magistrate avec qui il avait dansé. Vous voyez, c'est ça faire la ville. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, des gens se rencontrent et puis personne ne peut savoir qui est qui. Voilà.
Vous avez parlé tout à l'heure, Hélène, de la permanence architecturale, mais elle s'incarne aussi, elle s'incarne, disons, dans une cabane de chantier, dans une maison. Je crois que ça a été un des premiers gestes que vous avez réalisé, Pérou et Enac, enfin, de réaliser comme ça une sorte de cabane de chantier pour justement marquer une nouvelle étape dans le Tripostal. Peut-être quelques mots, Agathe ou Hélène, Agathe, sur cette cabane.
Oui, alors tout à fait, c'est-à-dire que notre permanence, on l'a définie, on s'est dit voilà, on va venir toutes les deux, on va venir pendant 6 mois habiter sur le site, l'activer, réussir à avoir un peu quels croisements, quelles sont les connexions qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire émerger. On avait des grandes idées en se disant pour nous faire la ville, ce serait vraiment avoir à la fois, bon, on partage aussi la difficulté qu'a Eric sur le terme de social et de culturel, mais on avait quand même ces trois grandes lignes de dire il y aurait du social, il y aurait du culturel et il y aurait du service. On n'est pas du tout sur un lieu où il n'y a que des résidences d'artistes et où du coup, on va croiser les beaux-arts et les pauvres. Ce n'était pas du tout la problématique de départ. Donc du coup, ce grand changement, il fallait que ça s'incarne et il fallait qu'il y ait des éléments pour visualiser cette transformation. Donc on avait imaginé que justement, il y aurait plusieurs événements qui seraient vraiment ouverts au public. Et le premier, ça a été vraiment la construction de cette cabane de chantier, parce qu'on estime qu'on rentre en chantier à partir du moment où on commence à réfléchir et pas à partir du moment où la bétonneuse et la pelleteuse sont là. Voilà, ce qui n'était pas tout à fait l'avis du directeur de l'urbanisme quand on l'a rencontré à cette époque-là. Mais aujourd'hui, il est tout à fait d'accord avec nous. Voilà, mais du coup, cette cabane de chantier, c'était incarner le fait qu'il allait se passer quelque chose, incarner un lieu pour parler de cette transformation, ce qui n'était pas évident parce que quand un architecte arrive, en général, l'appel te suit. Et puis là, non. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et amener les gens à faire ce chemin-là avec nous, parce que nous-mêmes, on ne sait pas exactement où on va. Et c'est avec eux qu'on va dessiner ce chemin-là.
Et cette cabane de chantier, c'est aussi un geste architectural. Elle a donné aussi un nouveau visage au lieu. Cette cabane implantée comme ça sur la cour, elle a redonné un nouveau visage à ce lieu qui est comme ça. C'est vrai, c'est ces 3000 mètres carrés qui peuvent paraître un peu abandonnés, ces préfats dans la cour. Donc cette cabane avec ce geste architectural, elle a aussi changé l'image, la représentation, le visage de ce lieu et du coup peut-être aussi la manière dont les gens pouvaient se représenter qui y habitait. Hélène ?
Oui, tout à fait. C'est un symbole assez fort parce que c'est montrer en 3 semaines de chantier ce qui est possible de faire ensemble. Donc c'est une cabane en terre paille qui a été construite par des bénévoles encadrés par l'association Tour à Terre. Et pendant ce chantier, beaucoup de personnes hébergées par HAS ont participé. Donc c'était déjà une première action très symbolique sur le construire, le faire ensemble et quelle image ça peut avoir et de quoi on est capable réellement en fait. en prenant les outils et en commençant ce chantier. Donc c'est vrai qu'il y a non seulement cette symbolique-là, et puis c'est aussi un nouveau visage. C'est montrer aussi au voisinage et à la ville que ça n'est pas un squat, que ça n'est pas un squat de punk à chien, comme on l'entend souvent, mais que c'est vraiment autre chose et que c'est du sérieux, en fait. C'est quelque chose de très sérieux, de festif, mais très sérieux.
Ces journées du tri possible aussi que vous avez mis en place, je crois une journée par mois du tri possible, où vous invitez deux journées par mois, où vous invitez d'une certaine manière eh bien, tous ceux qui veulent participer à la vie du tri, de venir imaginer ces journées du tri possible. On se dit quoi ? Soit il y a encore de la place pour de nouvelles associations, soit il n'y a plus de place pour de nouvelles associations. On en est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui quant à l'accueil de tous ceux qui veulent d'une certaine manière faire vivre ce lieu ? Parce qu'aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il y a énormément d'associations très diverses, effectivement, du tissu avignonnais qui ont rejoint l'aventure du tri.
Voilà, ben, c'est vrai qu'avec Hélène, on a énormément les premiers mois été avec nos dossiers sous le coude, répandre un peu notre projet pour que les gens commencent à nous connaître et à nous identifier. Et puis, on va dire, au bout de 3-4 mois de ce travail-là, on a vu finalement tout le monde revenir vers le tri. Des curieux, à la fois des gens qui venaient un peu à petits pas pour voir. Et puis, on s'est dit, voilà, si on les laisse les uns à côté des autres et puis qu'on les rassemble pas, on va pas réussir à créer du lien. Rassemblons tout ça et puis donnons-leur un peu d'intensité. Et donc, on va créer ces journées du tri possible, donc deux jours, la deuxième quinzaine de chaque mois. Donc, un rendez-vous de manière à ce que aussi le bouche à oreille fonctionne. Et on a assisté en effet à ce que tous les mois, en fait, la programmation double. Donc aujourd'hui, ça continue de croître. On a démarré à 30 ou 40 personnes du public en fait qui venaient par jour. Le mois dernier, ils étaient 250. C'était un peu plus, c'était un peu plus dur à gérer, mais ça continue de croître. Ça va pas être exponentiel comme ça encore longtemps. Il faut aussi faire confiance au fil de la vie qui va faire que du coup, c'est aussi les plus persistants qui restent. Parce qu'il faut bien voir que toute cette activité sur le lieu, elle n'est faite que par des bénévoles, ce sont que les gens qui viennent donner de leur temps. Et c'est simplement nous, notre connaissance du lieu qui a permis de les orienter et de se dire, ah tiens, toi, t'es illustrateur et tu sais faire des cours de dessin. Je sais que dans les publics d'HAS, il y a des gens qui, plutôt que d'être au contact des artistes qui, eux, savent peindre, ils aimeraient apprendre à dessiner. Tiens, on va faire un atelier ensemble.
Alors, il y a des artistes, il y a une sorte d'atelier d'artistes plus ou moins aménagé à l'intérieur du tri, mais sinon, voilà, dans ces journées du tri possible, les artistes viennent. Ils viennent en résidence, en contrepartie, ils aménagent aussi le lieu. C'est des logiques comme ça d'échange. Il y a des associations autour du jardinage qui viennent, un petit jardin qui s'est ouvert. Il y a des associations autour du vélo, atelier de réparation de vélo. Il y a les colibris dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire aussi il y a des formes de moments de débat, de moments de discussion. On se dit, mais c'est quoi ? C'est que toutes ces associations étaient d'une certaine manière aussi sans lieu à Avignon pour qu'elles viennent toutes au Tripostal, Eric ? Est-ce que...
Oui, il y a des associations qui sont sans domicile fixe. mais non, il y en a qui ont des lieux, La vocation du tri postal, c'est pas simplement d'abriter, c'est un endroit de passage, de brassage. Donc l'intérêt, c'est d'avoir, oui, des gens qui sont sans domicile fixe ou sans chez soi, on va dire, autant des associations que des personnes, mais qui croisent des gens qui ont un chez soi. Et c'est toute l'intelligence de la démarche qui a été entreprise par NAC et Pérou, c'est-à-dire de sortir de cet imaginaire que les gens ont sur qu'est-ce que c'est chez soi.
C'est-à-dire que c'est aussi un chez soi d'une certaine manière sans propriété. C'est un chez soi, comme vous le dites, de passage, carrefour. C'est comment habiter sans pour autant prendre la posture du propriétaire.
Ce qui nous intéressait dans la démarche qu'a pu faire Patrick Bouchain, c'est un peu de dénormer. C'est-à-dire que le chez soi, ça, c'est de l'ordre à la fois du très intime. Si vous allez dans vos toilettes, c'est peut-être plus intime de votre chez soi. Et puis après, vous avez une partie de votre chez-soi qui n'est plus tout à fait de l'intime. Donc le tri, c'est un peu ça. Ça va du très intime, et puis ça va du partagé, de la ville, puisque l'espace devant, dans le projet, ça devient une voie. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de penser que notre société, elle ne peut pas être faite de tas de morceaux d'intimes privatifs et de quelques endroits où on se croise. Bon, on est en train de réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'est l'espace public, qu'est-ce que c'est que l'espace privé, y compris dans les formes de logements qui vont être mis sur ce lieu.
Alors on va en parler de comment vous avez préfiguré l'avenir possible de ce lieu. Mais avant, parlons un petit peu de cette assemblée des rêveurs qui s'est mise en place, finalement une assemblée des rêveurs qui s'est mise en place à partir de toutes ces associations qui sont venues dans ces journées du tri possible, à qui vous avez proposé de rêver ensemble sur l'avenir de ce lieu. Et puis, Hélène et Agathe, vous avez commencé à maqueter d'une certaine manière le possible de ce lieu en fonction des désirs des uns et des autres. Vous avez d'une certaine manière déposé auprès cette fois-ci des institutions, la ville d'Avignon, peut-être le conseil régional, le conseil général, enfin en tout cas des interlocuteurs, le réseau ferré de France et autres, ce lieu, cette préfiguration, un projet tout de même assez ambitieux du point de vue de son utopie, puisqu'il propose à la fois une crèche, à la fois un lieu d'accueil d'urgence, à la fois des logements sociaux participatifs, à la fois une cantine, à la fois des espaces de coworking, à la fois une sorte de salle de spectacle, à la fois un jardin. Tout cela, c'est comment le faire vivre tout de même faire vivre cela ensemble. Ça paraît très complexe d'imaginer que tout cela puisse vivre ensemble dans cet espace-là de 3000 mètres carrés.
Moi j'ai pas l'impression que ça soit complexe parce qu'on l'a fait, qu'on y est, mais c'est-à-dire que ce que disait Eric, c'est-à-dire que oui, il y a des associations qui sont sans domicile, et puis il y a des associations qui viennent aussi là, pas parce qu'elles ont pas de lieu, mais parce que c'est beaucoup plus pertinent pour elles d'être là. Et ce qu'on a vu émerger avec la crèche typiquement, on n'y avait pas du tout pensé, et ça a été au fil des rencontres, et quand la crèche, donc qui s'appelle la Cité des Bébés, la Fabrique du Citoyen, quand eux sont arrivés et qu'on leur a présenté le projet, ils nous ont dit, bon, très bien, on a envie de venir se mettre ici, en fait. Parce que pour nous, notre projet, c'est d'avoir un quart d'enfant avec un léger handicap et trois quarts d'enfant complètement classique. Et que nous, du coup, notre principe, c'est de se dire, voilà, on va accepter tout le monde dans sa complexité, dans sa différence. Et ça a énormément plus de sens d'être ici, alors qu'au deuxième étage, il y a des publics accueillis par HAS. Ici, ça prend sens. Et pour nous, c'est un challenge encore plus impressionnant de se mettre là.
La ville, je crois que vous êtes... la ville d'Avignon, en tout cas, s'est prononcée non pas sur le projet en tant que tel, mais elle précisait qu'elle ne pourrait pas acheter le bâtiment. Est-ce qu'on peut aussi le comprendre, finalement, comme si votre projet serait un tout petit peu trop utopique finalement pour la ville d'Avignon, parce que ce n'est jamais les choses ne sont jamais uniquement une histoire financière, Hélène.
Non, c'est un projet utopique, mais il fonctionne déjà, il existe déjà. C'est pour ça que il devrait pas faire peur. il est déjà en place, il est déjà lancé. C'est un beau cadeau en fait qu'on fait à la ville. C'est-à-dire que c'est des associations qui sont rassemblées, c'est les habitants qui sont vraiment mobilisés là depuis plus de 6 mois pour démontrer la force de ce projet et montrer que cette mixité qui peut au départ être sur le papier existe et est réelle, comme en parlait Eric. On a vraiment plein d'exemples de rencontres assez incroyables, et la densité de la programmation qui est envisagée dans ce bâtiment, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on tient à ce qui est une salle de répétition, un espace de restauration, un espace de coworking pour que des gens très différents soient amenés à cohabiter, et que ce soit pas seulement le lieu de l'alternatif et le lieu de l'associatif, mais que ce soit un lieu de la ville. Et quand on dit faire ville, c'est fédérer le plus de monde possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite proposer à la ville, et on attend vraiment très impatiemment un retour et de la ville et du Grand Avignon le plus très positif. On est en attente d'un soutien.
Eric Kerimel, ce soutien de la ville, vous y croyez ?
J'y crois évidemment, parce que de toute façon, j'ai jamais vu quelqu'un refuser un cadeau pareil. C'est tout simplement impossible que la vie ne nous accompagne pas. Et Hélène a raison, c'est pas nous qui sommes demandeurs. Toute cette démarche-là, que ce soit RFF, que ce soit la ville, que ce soit la préfecture, que ce soit tout le monde, ils ne pouvaient pas imaginer un meilleur cadeau. Donc, c'est pas possible. On a confiance, on sait qu'ils ne sont pas masochistes.
Comment ce lieu va être géré? Je crois que vous avez constitué une association qui s'appelle le Tri Porteur, qui vise à préfigurer, là aussi, décidément la préfiguration, qui vise à préfigurer une société d'intérêt collectif, une SIC, comme c'est le cas à La Friche. Concrètement, comment va fonctionner le lieu?
L'idée, c'est en effet d'avoir un montage sur le schéma de la SIC. Donc, à la fois pour Avignon, c'est très intéressant. L'élu à l'économie sociale et solidaire hier nous rappelait que pour eux, c'est un bel enjeu parce que ce serait la première SIC sur le territoire avignonnais. Donc là aussi, c'est ambitieux. La SIC va fonctionner donc, comme les autres SIC et comme notamment le modèle de La Friche avec plusieurs collèges, avec du coup un représentant, une voix pour qu'on essaye d'avoir une gouvernance la plus égalitaire et démocratique possible. Avec à la fois donc un collège de financeurs, des gestionnaires, des usagers et puis des fondateurs, de manière à ce que toutes les voix puissent être entendues. Et en effet, pour aller vers ce chemin-là, on a constitué, il s'est constitué là, il y a 15 jours, l'association du Triporteur, qui elle est vraiment la préfiguration de cette SIC et fonctionne d'ores et déjà avec les collèges comme le fonctionnera la SIC.
Hélène, vous vouliez ajouter ?
Juste que ce n'est plus seulement HAS, ce n'est plus HAS, NAC, Pérou. Désormais, c'est un ensemble de 36 associations, et pas que des associations d'ailleurs. On a aussi l'École des Beaux-Arts et des institutions qui veulent nous rejoindre. Et le Triporteur, c'est vraiment un grand pas dans le projet du Tri. On était au début, NAC, Pérou et HAS à porter le projet et puis à aller voir à gauche, à droite. Maintenant, ça continue sans nous et c'est vraiment très beau ce qui se passe.
Vous êtes passé à une autre étape aussi, puisque je crois qu'il y a toujours une sorte de convention d'occupation du rez-de-chaussée avec RFF. Et puis, vous avez décidé d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur, d'occuper le niveau 2 du bâtiment. Vous ne craignez pas que RFF le prenne mal, Éric Rimmel?
Oh, vous savez, il y a plein de choses, plein de moments dans la vie où on est un peu effracté. Ça sera pour RFF comme pour nous, comme pour tout le monde. Les blessures se soignent vite. Oui, nous, on a une convention d'occupation sur le rez-de-chaussée pour les activités spécifiques à HAS. L'association qui s'est constituée, du Triporteur, avec 36 associations, va occuper le premier étage. Donc peut-être que si RFF écoute, voilà.
Je crois qu'il y a des espaces de coworking qui sont ouverts.
C'est une annonce. Il ne faut pas imaginer que c'est un squat. Ça n'a pas grand-chose à voir avec un squat. C'est un bâtiment payé par la République qui revient aux gens qui font la République. Et donc, bien sûr, RFF, à vous, à moi, au ministre, à tout ce qui constitue... la République.
Le projet, c'est une enveloppe financière. Enfin, le coût de ce projet s'élève à
6 millions, mais total. Hein. C'est-à-dire tous les travaux, toutes les études, toutes les équipes, que ce soit l'équipe qui sera côté maîtrise d'ouvrage, donc client, ou côté maîtrise d'œuvre, tous les ingénieurs, les architectes, ainsi que du coup tous les travaux pour réhabiliter à la fois le bâtiment et à la fois sa cour.
Et pour fabriquer donc ces espaces dont on a parlé, crèche.
Voilà, tout à fait. La cantine. Crèche, le rez-de-chaussée, la cantine, un espace dont on n'a pas parlé qui est important, qui est un espace de soins dans lequel il y aurait à la fois des espaces de douche, de hammam et de laverie. Ce qui répond là aussi à une demande que nous a faite la ville d'avoir des douches municipales puisqu'il n'y en a plus à Avignon.
C'est la ville qui a contribué aussi à un élément du projet.
Voilà, tout à fait. Donc du coup, ces douches et cet espace de soins sera très important. Et puis, donc, un espace d'accueil de nuit et de restauration pour le rez-de-chaussée. Ce sont des espaces qu'on a travaillés comme étant des espaces qui vont fonctionner 24 heures sur 24 et qui sont très modulables. En journée, ça pourra servir justement aux gens qui habitent à l'étage, au deuxième étage, pour pouvoir descendre faire leur linge dans la laverie. Alors que de nuit, par exemple, ces espaces seront dédiés aux gens qui sont accueillis par HAS, spécialement la nuit.
Mais Hélène et Agathe, là, vous avez terminé votre permanence architecturale. Donc, vous avez fait ce plan de préfiguration. D'une certaine manière, vous avez contribué comme ça à lancer cette vie intense à l'intérieur du TRI, ces nombreuses associations, l'association Triporteur. Mais le projet, disons, n'est toujours pas, en tout cas, validé par la ville d'Avignon. Comment vous allez désormais continuer à suivre ce projet, puisque désormais ce n'est plus dans le cadre d'une permanence architecturale? Comment va se faire la suite sans la permanence architecturale? Hélène, Agathe?
La suite se fait dans l'accompagnement justement de la ville, entre autres, et puis d'un DLA, un dispositif local d'accompagnement que l'on a enclenché avec HAS pour réussir là à un peu mettre à l'épreuve la faisabilité financière en fait du bâtiment. Nous, on a esquissé des choses, dessiné des choses en termes de programme et d'architecture. Maintenant, l'équilibre financier, comment il se trouve, c'est ce qu'on va du coup travailler pendant cette deuxième phase. Pour l'instant, notre travail il va être de suivi, donc on rentre dans une période d'accompagnement bénévole parce qu'on a la foi et que la ville sur place montre des signes d'encouragement.
Je vais lancer
Eric.
Je fais le buzz. Il y a plusieurs milliers de carrelages sur la façade du Tri-Postal. Alors je lance un appel à tous les auditeurs. Ils peuvent acheter un morceau de ce carrelage et leur nom sera mis dessus. Voilà. Ça part à partir d'aujourd'hui. Chacun peut acheter un carrelage de la façade pour constituer à ce lieu républicain. Il suffit d'appeler soit le NAC, soit Pérou, soit HAS. Voilà. Vous pouvez acheter un carrelage même pour 3 euros si vous voulez.
Je crois que ce que dit Eric participe aussi de ce que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire des modes de financement. En tout cas, voilà, montrer que vous ne souhaitez pas abandonner ce projet. Et que vous mettez en mouvement pour trouver des formes de financement alternatif aussi, Hélène ?
Oui, tout à fait. Ce n'est pas parce que la ville ne se mobilise pas actuellement que le projet va s'arrêter. Et on pense vraiment faire appel aux habitants et à des financements participatifs, et donc du crowdfunding, et pourquoi pas aussi, vendre des carreaux, comme le dit Eric, ou vendre des mètres carrés. On est vraiment en train de réfléchir à ça, c'est-à-dire... Comme de la même manière que le projet du TRI s'est mis en place, grâce à l'intelligence collective, grâce à la mobilisation de chacun, on se dit que ça peut aussi continuer de cette manière-là si on n'a pas plus de soutien des institutions. Donc ça, c'est vers ça qu'on va tendre et on va faire des appels vraiment très très larges pour que le TRI avance et que le projet se réalise.
Vous avez un bailleur social qui prête un peu l'oreille à vos projets ?
On a un bailleur qui est très attentif et qui soutient Sud Habitat, qui nous encourage et qui, pour l'instant, félicite le travail mené, ce qui est important puisque la partie logement représente 40% du 40% de la surface et du budget des travaux. Donc avoir un soutien qui est donc à hauteur aujourd'hui de presque 3 millions, ça pèse vraiment dans la balance et c'est ce qui fait notamment que le projet a de grandes chances de voir le jour, car c'est toujours un jeu de dominos et quand il y a le premier qui fait tomber, en général, les autres suivent.
Tout à l'heure, en ouverture, Eric Kerimel disait, non pas social, mais politique. Agathe, Hélène, c'est votre manière, vous, de trouver là des formes d'engagement politique que ce projet, par exemple.
Ouais, alors c'est vrai que au Pérou, on est une association constituée, on va dire, d'énormément de profils, mais son fondateur est avant tout politologue. Et c'est vrai que voilà, ça donne une teinte à notre engagement. Et si derrière, c'est souvent les architectes qui sont plus sur le terrain et avec la visseuse, c'est dans une même intelligence et c'est vers justement cette forme d'action. Bon, on parlera pas de militantisme, mais en tout cas d'action citoyenne.
On parlera pas de militantisme, Hélène ?
Bien sûr qu'on fait du politique. Bien sûr qu'on fait du politique. On parle de faire la ville. Je pense qu'en tant qu'architecte, c'est forcément une question qu'on se pose. Et si on n'essaye pas d'agir ce en quoi on croit et vers vraiment un meilleur vivre ensemble, c'est qu'on passe vraiment à côté de tout. Voilà, il y a une responsabilité dont on doit être conscient et dont on doit tous être conscient. Et évidemment, NAC et Pérou revendiquent ça.
Éric Kerimel, vous irez jardiner, j'imagine, au Tripostal.
Oui, oui, il est même peut-être question qu'on aille poser des ruches. Parce que c'est un bel exemple de la constitution d'une ville, un rucher. Donc peut-être qu'on va rebondir sur cette métaphore et qu'on va créer un lieu où il y ait des butineuses, un lieu où il y ait des gardiennes, un lieu où il y ait des accoucheuses, un lieu où on constitue un habitat pluriel. Donc oui, j'irai jardiner, d'autant que d'ici là, je serai à la retraite. Et on ira jardiner, on ira surveiller les abeilles et tous les gens qui sont autour d'elles.
Merci à vous d'être venu ici à Marseille sur les ondes de Radio Grenouille 88.8. Je précise qu'il est toujours possible de cultiver évidemment l'avenir du tri et de rejoindre l'équipe de ces triporteurs de l'ensemble de ces associations. Et Radio Grenouille eh bien, continuera à suivre comme nous l'avions fait précédemment. Nous étions venus au Tripostal pour venir à votre rencontre. Et puis évidemment, comme c'est un projet qui parle aussi, ce morceau de ville parle évidemment à la friche là où nous sommes. C'est aussi l'utopie de qualité, celui de la friche, et qu'il est toujours d'ailleurs d'être un morceau de ville. On ne peut que être heureux de voir qu'ailleurs des formes comme ça de morceaux de ville utopiques puissent naître et se mettre en mouvement. Merci beaucoup à vous trois.
Merci.
Une émission à retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com exactement, me dit Sébastien à la réalisation de cette émission.
Le 13h30.
Le 13h30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Faut que je sois dispo, quoi.
Ouais.
88.8 FM.